d'aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seloulia, bonjour. Ici aux États-Unis, 2 semaines après que les principales chaînes de télévision ont proclamé la victoire du démocrate Joe Biden à la présidentielle du 3 novembre, le président républicain Donald Trump continue de dénoncer une fraude massive et refuse de reconnaître sa défaite. Jusqu'ici, la bataille engagée par son camp auprès des tribunaux n'a pas donné les résultats escomptés, mais ces contestations entravent la transition. Les 538 grands électeurs du collège électoral, désignés État par État, doivent officiellement élire le futur président américain le 14 décembre prochain. Pour sa part, le président élu Joe Biden doit nommer ce lundi les premiers membres de son futur cabinet, a dit dimanche son prochain secrétaire général de la Maison-Blanche, Ron Klain. Au Burkina Faso, le dépouillement du double scrutin présidentiel et législatif a commencé à la tombée de la nuit dimanche, peu après 18 heures à Ouagadougou. Ces élections se sont déroulées dans un contexte tendu, illustré par la fermeture de bureaux en cours de journée face à des menaces dans ce pays en proie à des attaques djihadistes incessantes. Nous y reviendrons avec nos correspondants sur place, Lamine Traoré et Kader Traoré. En Côte d'Ivoire, le parti du président Alassane Ouattara est réélu pour un troisième mandat controversé lors d'un scrutin marqué par des violences pré- et post-électorales ayant fait 85 morts, a monté le ton dimanche après la suspension du dialogue par l'opposition. Le porte-parole du RHDP, le ministre Kobenan Adjumani, a invité l'opposition à cesser, je cite, de ruser avec la paix, car dans cette crise, rien ne peut s'obtenir par la force ou par la violence. En annonçant vendredi la suspension du dialogue, le chef de l'opposition, l'ancien président Henri Konan Bédié, avait réitéré certains préalables de l'opposition, notamment la libération de tous ses militants et cadres incarcérés et le retour des opposants de l'étranger. En Éthiopie, le premier ministre Abiy Ahmed a lancé un ultimatum de 72 heures aux dirigeants du Tigré, leur demandant de déposer les armes. Ce sera dans quelques instants avec Bagassi Koura. Les États-Unis espèrent commencer leur campagne de vaccination contre le COVID-19 avant la mi-décembre, sitôt obtenu l'approbation des autorités sanitaires, a déclaré dimanche Moncef Slaoui, un haut responsable de l'opération gouvernementale pour les vaccins. « Je m'attends à ce que ce soit peut-être au deuxième jour après l'approbation, le 11 ou le 12 décembre », a dit M. Slaoui sur CNN. Selon un bilan de l'AFP dimanche, la pandémie de COVID-19 a fait dans le monde plus de 1,38 million de morts pour plus de 58 100 000 cas depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 256 725 décès, suivis par le Brésil, l'Inde, le Mexique et le Royaume-Uni. Les dirigeants du G20 ont promis dimanche de ne reculer devant aucun effort pour garantir un accès équitable aux vaccins contre le COVID-19, selon la déclaration finale d'un sommet virtuel au ton résolument consensuel, mais pauvre en détails concrets. La chancelière allemande Angela Merkel s'est déclarée inquiète de la lenteur des discussions pour fournir le vaccin contre le COVID-19 aux nations les plus pauvres. Le communiqué du G20 évoque aussi la dette des pays les plus pauvres et la lutte contre le réchauffement de la planète. Ce sommet de 2 jours a été organisé sous la houlette de l'Arabie Saoudite, à qui l'Italie succédera l'an prochain. L'allègement de la dette de l'Afrique sera l'un des principaux thèmes de la présidence italienne en 2021. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC. En votre compagnie, Idrissa Seloulia.
La suite de nos informations. Au Burkina Faso, le dépouillement du double scrutin présidentiel et législatif de dimanche a commencé à la tombée de la nuit hier, peu après 18 heures à Ouagadougou. Malgré la donne sécuritaire, ces élections ont eu mal selon la CENI. Même si plusieurs bureaux de vote qui avaient ouvert ont été fermés en raison de menaces dans ce pays, en proie à des attaques djihadistes incessantes, notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré, qui se trouve à Dori, dans la région du Sahel, a suivi ces élections pour nous.
Le processus s'est bien déroulé, même dans les régions du Sahel, de l'Est et du Nord, où la situation est difficile, a déclaré dimanche le président de la CENI, Newton Ahmed Barry. À Tinakoff et à Bartibougou, dans le Sahel, aucun bureau de vote n'a ouvert du fait de la situation sécuritaire qui y prévaut, reconnaît le président de la commission électorale. Dans la commune de Dori, des villages entiers n'ont pas voté. Aziz Diallo est député maire de Dori.
On a un peu l'impression d'une élection au rabais. Je pèse bien mes mots. C'est déplorable, mais si c'est ce que la sécurité a décidé, je pense qu'on aurait pu trouver une meilleure manière.
Dans les villages où les bureaux ont ouvert, beaucoup ont dû braver la peur pour voter. Mamoudou Maïga, un électeur de Selbo, à 15 km de Dori.
Ça nous fait beaucoup peur. Nous, ça nous plaît, on va voter. Mais on a peur là où on est tout de suite la même. On ne sait pas c'est quoi ça va donner d'ici la fin. Voilà.
Balkissa Diallo est aussi une électrice de ce même village.
C'est une joie pour nous de voter parce qu'il y a d'autres villages qui n'ont pas pu voter. C'est vrai qu'il y a l'insécurité, on a peur, mais on est serein. Parce que ce qu'on est venu faire est plus important.
Les votes sont donc terminés. Les dépouillements ont commencé immédiatement hier soir, dès la fermeture des bureaux de vote. En raison des menaces sécuritaires, quelques 1500 villages ont été exclus du scrutin. La grande majorité du million de déplacés n'a pas non plus participé au scrutin. Lamine Traoré, Dori, VO Afrique.
En Éthiopie, ultimatum de 72 heures du premier ministre Abiy Ahmed aux dirigeants de la région dissidente du Tigré pour qu'ils déposent les armes dimanche. L'armée éthiopienne a menacé les autorités régionales du Tigré d'un assaut impitoyable. Bagassi Koura.
Prix Nobel de la paix en 2019, Abiy Ahmed a déclenché cette opération le 4 novembre, accusant les responsables du TPLF, le Front populaire de libération du Tigré, au pouvoir dans cette région du nord du pays, de chercher à déstabiliser le gouvernement fédéral et d'avoir attaqué deux bases militaires fédérales dans la région, ce que nient les autorités tigréennes. Dans un communiqué adressé aux dirigeants du TPLF, Abiy souligne, je cite, la route vers votre destruction touche à sa fin et nous vous demandons de vous rendre dans les prochaines 72 heures. Vous êtes à un point de non-retour. Saisissez cette dernière chance, a-t-il ajouté. L'armée éthiopienne avait auparavant prévenu de l'imminence d'une attaque contre Mekele, capitale du Tigré, siège du gouvernement local que le pouvoir fédéral cherche à déloger, appelant les civils à fuir tant qu'il est encore temps. Le chef du TPLF, Debretsion Gebremichael, a répondu dimanche en promettant de livrer des, je cite, combats acharnés pour freiner l'avance de l'armée éthiopienne.
L'Agence américaine du médicament a autorisé samedi en procédure d'urgence l'utilisation du traitement expérimental aux anticorps contre le COVID-19 développé par le groupe pharmaceutique Regeneron. L'on annonce aussi le début des vaccins en décembre. Les précisions de John Lyndon.
Le Regeneron a été donné au président américain Donald Trump lors de son hospitalisation début octobre après qu'il a été infecté par le coronavirus. L'Agence américaine du médicament a déclaré que le traitement aux anticorps de Regeneron pouvait être utilisé chez les adultes et les enfants avec des symptômes modérés de COVID-19 et présentant un risque d'évolution vers une forme sévère. Cela inclut les personnes âgées d'au moins 65 ans ou souffrant de certaines maladies chroniques. L'agence a ajouté que les anticorps ne sont pas autorisés pour les patients qui sont hospitalisés en raison de COVID-19 ou qui ont besoin d'une oxygénothérapie en raison de COVID-19. Sur un autre plan, les premières vaccinations contre le coronavirus pourraient intervenir dès le 11 décembre ici aux États-Unis si le candidat vaccin mis au point par Pfizer est autorisé. C'est du moins ce qu'a annoncé dimanche sur CNN le docteur Monsef Slaoui, nommé par Donald Trump pour coordonner le développement d'un vaccin contre le COVID-19.
Toujours avec John Lyndon, la Minute Éco.
Yaoundé, la capitale du Cameroun, abrite les 26, 27 et 28 novembre 2020 le deuxième sommet des blogueurs du Cameroun sous le thème Blogging et économie numérique. Selon le site CameroonInfo.net, l'initiative de l'Association des blogueurs du Cameroun est une plateforme d'échange et de réflexion autour des différentes thématiques qui visent à définir les possibilités qu'offre la technologie numérique pour booster la promotion des marques camerounaises à travers le blogging. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a mobilisé 3,8 milliards d'euros lors de la table ronde avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux tenus à Paris les 17 et 18 novembre 2020. Selon la CEMAC, ces fonds devraient servir à la réalisation de 11 projets dits intégrateurs dans les 6 pays membres de l'organisation sur la période 2021-2025. Le Bitcoin a grimpé vendredi à plus de 18 750 dollars, le plus haut niveau depuis décembre 2017. En une semaine, la reine des crypto-monnaies a engrangé 17%, la plus forte hausse hebdomadaire depuis juin 2019, soit plus de 160% depuis le début de l'année. Dimanche, sous la pression des prises des bénéfices, le cours s'est effrité de 1,32% à un peu plus de 18 460, mais devrait, selon les analystes, poursuivre sa route vers le sommet historique de 20 000 dollars atteint il y a 3 ans.
Les sports à présent avec Élisée Onpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Le monde du football ivoirien est en deuil. Sidi Augustin Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football depuis 2011, est décédé samedi à l'âge de 61 ans.
Oui, féru du ballon rond, il aura passé de longues années dans les arcanes du football en Côte d'Ivoire. Sa mort intervient dans un contexte où le renouvellement des instances dirigeantes de la FIFA est toujours dans l'impasse depuis plusieurs mois. Son portrait dans cet élément de notre correspondant à Bouaké, Siriki Baro.
Testé positif du Covid-19 il y a quelques jours, Sidi Augustin Diallo s'est éteint ce 21 novembre. C'est en 1991 qu'il fait son entrée au sein de la Fédération ivoirienne de football en tant que vice-président. Assurant la parfaite doublure des présidents Dieng Ousseynou puis Jacques Hanouma, il prend la tête de cette fédération en septembre 2011. C'est sous sa présidence en 2015 que les éléphants de Côte d'Ivoire remportent leur seconde Coupe d'Afrique des Nations après celle de 1992. Passionné de football, la vie de Sidi Augustin Diallo rime presque toujours avec le rectangle vert. De nombreux clubs de football, dont le Stella Club d'Adjamé, dont il est l'un des membres fondateurs, ont largement bénéficié de son soutien personnel. Après 3 décennies d'implication dans la gestion du football ivoirien, le bilan de l'homme est diversement apprécié. Le cas Didier Drogba, pour le poste de candidat à la présidence de la FIFA, reste encore présent dans les esprits. Homme d'affaires, Sidi Augustin Diallo assurait également la fonction de PDG de Ivocep, la plus importante entreprise de pompes funèbres en Côte d'Ivoire. Siri Kibaro, Bouaké, VOA Afrique.
La FIFA a annoncé, Élisée, que Doha accueillera la Coupe du Monde des clubs 2020 du 1er au 11 février 2021.
Exactement Idrissa, la capitale du Qatar sera la ville hôte pour la deuxième fois consécutive de cette compétition. Pour rappel, ce tournoi devrait se tenir en décembre prochain avant d'être repoussé suite à la pandémie de coronavirus. A noter que 2 équipes sont déjà qualifiées pour ce tournoi. Al Dual, club champion du Qatar représentant le pays hôte, et puis le Bayern de Munich qui a remporté la dernière Ligue des champions d'Europe. Le reste des clubs participants sera connu prochainement après l'achèvement des compétitions dans leurs différentes confédérations.
Au Sénégal, 2e journée du tournoi de qualification pour la CAN des moins de 20 ans dans la zone UFOA, démarré vendredi dernier.
Tout à fait. Et hier, le Sénégal a réagi après avoir été accroché lors de la première journée par la Sierra Leone en battant largement la Gambie 5-1. Les Lyonceaux prennent la tête du groupe A avec 4 points. A noter que la veille, la Guinée-Conakry, vainqueur 1-0 de la Mauritanie, occupe la deuxième place du groupe B derrière la Guinée-Bissau, victorieuse sur tapis vert face au Mali.
En RDC, deux derbys marquaient la Lina Foot dimanche.
Oui, et à Lumumbashi, le TP Mazembe a été tenu en échec à domicile par les cheminots de FC Lupopo 1-0. Les Corbeaux gardent la troisième place au classement avec 13 points à 6 longueurs de l'ASV Club, vainqueur 1-0 du Darin Club Motiba Pembe dans le derby de Kinshasa. C'est Manema Union qui est toujours leader au classement avec 25 points. Le club de Kindu s'est offert hier le groupe Bazano sur la marque de 2-0.
Aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie, Idrissa Sidoumia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, le double scrutin électoral présidentiel et législatif s'est déroulé dimanche sur la majeure partie du territoire, sauf dans les localités où la sécurité des personnes est mise à rude épreuve. Les populations ont pu se rendre aux urnes pendant que très tôt dans la journée, l'opposition signalait déjà des tentatives de fraude. Notre correspondant à Ouagadougou, Kader Traoré.
Très tôt hier dimanche, les Burkinabés ont pris d'assaut les bureaux de vote pour accomplir leurs devoirs citoyens. À Ouagadougou, la population est sortie pour traduire par les urnes son choix d'un nouveau président de la République pour les 5 prochaines années et les députés à l'Assemblée nationale.
Je me suis levé très tôt pour venir accomplir mon acte de citoyenneté.
Djakalia Baro, habitant au quartier d'Assasgo.
Le sens que je peux donner à ces gestes, c'est une pratique citoyenne. C'est tout citoyen doit pouvoir voter. C'est à l'âge de voter.
En attendant que le futur chef de l'État et les représentants à l'hémicycle soient connus, il y a lieu que tous les Burkinabés regardent l'intérêt supérieur de la nation. C'est l'appel lancé par Madina Traoré, une habitante de la capitale qui venait d'accomplir son vote.
Ce que je veux, qu'après les votes, les Burkinabés se donnent main dans la main. Voilà, pour bâtir le Burkina Faso. Parce que souvent je vois que en fait, les gens sont en campagne durant le mandat de l'autre. Alors moi je pense qu'on doit laisser les trucs personnels de côté et se donner la main.
Dans la mi-journée, la CENI, la Commission nationale électorale indépendante, soulignait que le vote s'est bien passé dans son ensemble, même si elle reconnaissait qu'il y a eu des difficultés.
Dans l'ensemble, les choses se passent plutôt bien.
Newton Ahmed Barry, président de la CENI.
Dans la grande majorité des cas, les bureaux de vote ont ouvert à 6 heures. Nous craignions, qui étaient donc les régions du Sahel et les régions de l'Est, la situation du vote est plutôt satisfaisante.
Pendant ce temps, les partis de l'opposition crient déjà à la fraude. Son chef de file, Zéphirin Diabré, est candidat de l'UPC, l'Union pour le Progrès et le Changement, indexe le parti au pouvoir, le MPP.
Nous constatons que les bureaux de vote, on dit qu'ils ne peuvent pas voter là. C'est souvent des bureaux où l'opposition est forte. C'est le cas, par exemple, de Liptougou, dans la province de la Nyanya. Voyez. Donc, je parlais de Loudala pour Gorom Gorom. Ça pose un problème qui risque d'entacher le sérieux et la sincérité des résultats.
Pour l'heure, l'opposition affirme avoir porté plainte auprès du procureur du Faso hier soir dès la fermeture des bureaux de vote. Le dépouillement avait commencé. Le président de la CENI avait laissé entendre que le vainqueur pourrait être connu le plus rapidement possible. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Sénégal, depuis l'apparition d'une mystérieuse maladie dans plusieurs villages de pêcheurs traditionnels avec des centaines de cas jusque-là, les autorités ne donnent aucune cause exacte. Les premiers examens n'ont pas réellement permis d'élucider l'origine de cette maladie, qui cause une grande anxiété au sein des populations. Par peur, beaucoup de Sénégalais ont décidé de ne plus toucher aux poissons, alors que le plat national, le fameux tchéboudienne, est fait à base de riz et de poisson. Notre correspondant à Dakar, Sédina Abagay.
Les autorités ont très tôt pris les devants pour éviter que la psychose ne s'installe. Après une visite dans les villages de pêcheurs touchés par la maladie, le ministre de la Pêche Alun Doy s'est voulu rassurant, disant que la mise en circulation des poissons est réglementée pour protéger le consommateur.
Nous confirmons une prompte réactitude du ministère de la Santé avec toutes ses équipes et le professionnalisme des médecins. Ils ont permis tout de suite d'isoler ces malades et de les prendre en traitement avec des résultats probants parce qu'au bout de deux jours, je crois, certains sont rentrés chez eux. Donc cela est rassurant. Nous avons tenu à faire parler le régional justement pour rassurer au niveau de tout ce qui se dit quant au fait de manger ou pas du poisson. L'origine, il est avéré qu'elle n'est pas de ce niveau-là. Et comme il l'a rappelé, les poissons qui sont déversés sur le marché sont l'objet d'abord d'analyses et de certification quant à le caractère consommable de ces produits-là.
Des assurances qui ne semblent pas convaincre les Sénégalais. Beaucoup d'entre eux ont préféré opter pour la prudence. Pour Khadissou, femme au foyer, il est tout simplement exclu d'aller acheter du poisson au marché ou à la plage.
Ça nous fait très peur. Nous n'allons plus au marché hein, et nous n'allons plus prendre des risques par rapport à ça. On fait maintenant le menu, on change de repas et c'est plus sûr. On a des enfants et tout, on ne va pas prendre le risque. Maintenant, la plage, c'est fini. Jusqu'à nouvel ordre, Inch'Allah.
Ces craintes ne se limitent pas aux ménagères, mais bien au-delà. Abdoulaye Camara est un sportif habitué de la plage. Il juge qu'il est pour le moment plus raisonnable d'éviter les plages et la mer.
Effectivement, ça me pose problème parce que j'ai complètement arrêté mes activités sur la plage. Vu qu'il y a problème, une maladie dont tu connais, une infection dont tu ne connais pas l'origine, je ne vois pas pourquoi aller risquer d'aller à la plage alors qu'on peut faire nos activités dans les salles de sport et dans les terrains de foot.
Les premiers résultats des examens effectués sur l'axe maritime Dakar-Popongine n'ont pas permis de lever les équivoques. Après analyse d'échantillons d'eau de mer, d'équipements de pêcheurs et de poissons, les experts ont relevé la présence de plusieurs composantes chimiques et suggéré la remise des résultats à des toxicologues, mais aussi l'orientation des recherches vers les filets utilisés par les pêcheurs. Pour le moment, cette maladie, où des pustules et des abcès envahissent tout le corps, garde encore tous ses mystères. Seydina Abagay, à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h/24.
Au Togo, en moins d'un an, le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire a été multiplié par 60. De 4 000, elles sont aujourd'hui 250 000 personnes à se retrouver en insécurité alimentaire sévère suite à la crise socio-économique engendrée par la pandémie de COVID-19. Le point avec notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
Le Togo n'est pas à risque de famine, mais dans le pays, quelques milliers de personnes se retrouvent en insécurité alimentaire sévère. Guy Mesmer Adjoua, représentant du programme alimentaire mondial PAM pour le Togo.
Il y a des populations qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire sévère. Et cette sévérité est due, par exemple, du nombre de repas, la qualité. Et donc, si on prend cette catégorie-là où les gens sont obligés de vendre, sacrifier leurs biens pour pouvoir accéder à la nourriture, ça représente à peu près 4 000 personnes, ce qui n'est pas grand. Maintenant, quand on va un peu plus loin, on voit le niveau intermédiaire, ils sont autour de 440 000. Ce sont des gens qui sont dans une situation de sécurité alimentaire qui est un peu délicate, en ce sens où s'il y a le moindre choc, ils peuvent passer à la phase insécurité alimentaire sévère.
Un choc est venu bouleverser le cours de la situation et ce choc a un nom. La crise due à la pandémie de COVID-19.
Parmi les 440 000 qui étaient déjà dans une situation assez limite, avec la crise qui est un choc, certainement que ces ménages, ou si ce n'est pas tous ces ménages, ont basculé à une phase assez délicate. Ce qui fait que le PAM a préparé un programme d'intervention en ciblant les plus vulnérables parmi ces populations-là. Et donc aujourd'hui, nous parlons de 1 million à peu près
250 000 à assister, mais ils sont à 1 250 000.
Aboubakar Koïcha, directeur adjoint du PAM au Togo.
Pour nos distributions locales, il y aura environ 3 900 tonnes de vivres, et en grande partie c'est des céréales. C'est le maïs, le riz, souvent aussi des fougnaux. Il y a l'huile végétale vitaminée. Il y a également les légumineuses, à défaut de la viande ou du poisson, qui jouent ce rôle des protéines dans le corps. Et nous distribuons le sel, mais le sel iodé.
En octobre dernier, le PAM a reçu le prix Nobel de la paix pour son engagement contre la faim, à l'amélioration des conditions de paix dans les zones touchées par des conflits et dans la prévention de l'utilisation de la faim comme arme de guerre et de conflit. Le Togo y a contribué, relève Aboubacar Kocha, directeur adjoint du PAM au Togo.
Le port de Lomé joue un grand rôle parce que ce port de Lomé nous permet de transporter vers ces pays de hinterland, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, chaque année environ 100 000 tonnes. Et si le Togo a permis de faire passer ces vivres à travers son port et utiliser les routes, parce que ces vivres sont transportées par les camions, et c'est là aussi c'est une contribution pour le Togo. Et j'ai dit, c'est plus Nova de la paix, c'est pour le PAM, mais c'est aussi pour le Togo, et les Togolais doivent savoir qu'ils ont contribué au décernement de ces prix au PAM.
L'année 2021 s'annonce difficile pour l'agence onusienne qui s'occupe de la lutte contre la faim dans le monde. Nous aurons des famines aux proportions bibliques en 2021, a prévenu le directeur général du PAM. Dans un rapport conjoint, le PAM et la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, ont alerté sur le risque de détérioration de l'insécurité alimentaire aiguë dans le monde. 14 pays africains sont en menace de famine, indique le rapport. Taïlosson, Lomé, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Le Gabon voit ses écosystèmes de marais maritimes subir de vastes destructions à des fins immobilières. Les ONG dénoncent un massacre écologique dont les conséquences sont à craindre si rien n'est fait, notamment du fait que les sols de ces marais sont des puits de carbone très efficaces selon les spécialistes. Reportage à Libreville de notre correspondant Ismaël Obiangze.
Réservoir immense en matière de biodiversité, supermarché naturel pour certaines populations. La mangrove qui encercle le littoral de Libreville est pourtant en danger. Jeudi dernier, l'ONG Action Citoyenne pour le Développement Local a lancé l'alerte via les réseaux sociaux pour dénoncer le massacre de cet écosystème dans la zone nord de la capitale gabonaise. Paul Kobedina Itangino, président de l'ONG ACDL.
Il y a une réduction importante de la biodiversité et donc des ressources.
Aujourd'hui, de nombreuses associations mettent en œuvre des projets pour la protéger. C'est le cas de l'ONG Pumeria, dont les membres multiplient de plus en plus d'efforts afin de préserver ou replanter les forêts de mangroves qui occupent un peu plus de 2000 hectares de surface de terre gabonaise. Landré Lignambou, président de l'ONG Pumeria.
Les mangroves sont polluées par les bouteilles plastiques, les sachets plastiques, les déversements des populations.
Les inondations enregistrées dans le Grand Libreville sont en partie liées à la destruction des mangroves. Plusieurs habitations mitoyennes de la concession de Camille Bitégué sont abandonnées par leurs occupants.
L'eau est montée ici à 1,50 m. J'ai tous mes enfants, ils sont partis ici, tout le monde a fui parce que chaque fois il pleut, on vide l'eau.
Venir à bout de ce phénomène né de la spéculation foncière, Pierre Bongolo, membre de la Commission nationale d'affectation des terres, a fait des propositions au gouvernement. Pierre Bongolo est urbaniste aménagiste.
Déjà, identifier des zones qui pourraient faire l'objet des aménagements fonciers pour donner un accès facile aux fonciers. L'autre solution, mais c'est également que les pouvoirs publics en charge de la gestion de ces zones fassent également de la répression.
De la répression contre les contrevenants à la loi. Peut-être bien que les autorités y parviendront un jour, car au ministère des Eaux et des Forêts, il existe désormais un texte réglementant toute activité qui impacte les mangroves. Jean-Hervé MVB est directeur général des écosystèmes aquatiques au ministère gabonais des Eaux et Forêts.
Ce mécanisme va nous permettre finalement soit rejeter les projets qui nous sont soumis, soit alors de les encadrer de façon à ce que la dégradation de la mangrove soit moins importante possible.
Accusé d'un laisser-aller sur le terrain par les défenseurs de l'environnement, le gouvernement réaffirme sa détermination à préserver et à sauvegarder les milieux naturels. Libreville, Ismaël Obiangze pour VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée.